divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
Auditrice, auditeur, bonjour. Au micro, David Gozlan. Je ne sais pas s'il en est fini de cette guerre infâme. Mais aujourd'hui, c'est une émission particulière en ce mois de juin. Je suis en compagnie de Franck Samet, président de la Société d'Histoire du Radicalisme.
Bonjour,
bonjour Franck. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Franck, pour les auditrices et les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter le président de cette fameuse Société d'Histoire du Radicalisme?
Oui, mais bien sûr. Donc c'est une association qui a été créée en 1982 par Marcel Orubi, qui a été repris donc suite à son décès par Alice Benamou Panetta. Et donc moi, je suis le président depuis 2014. C'est une association qui rassemble tous les sympathisants de la pensée radicale, des deux partis radicaux d'aujourd'hui. Il y a des chercheurs, des historiens, des intéressés, des sympathisants. On publie des cahiers sur différents sujets, on organise de temps à autre des colloques et on essaie de faire vivre justement au jour d'aujourd'hui le radicalisme comme à la fois dans sa pensée mais dans son histoire politique aussi depuis la création du Parti radical.
Bah, très bien, donc c'est une société vraiment vivante d'histoire, ça nous intéresse nous aussi à la libre pensée, ça nous intéresse d'autant plus parce que les figures du radicalisme, on peut en évoquer quelques-unes. Honoré Daumier, Léon Gambetta, Victor Schœlcher, Émile Combes, Jean Zay, Herriot et bien d'autres. Et je dirais, à travers ce que je viens de citer, du 19e siècle au 20e siècle, la planète radicale est vaste, elle est diverse. Alors, de façon à essayer de cibler un petit peu notre propos, je voudrais un petit peu t'interroger, Franck, sur la place des radicaux autour de la loi de 1905. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois cette place-là, donc des dits radicaux, dans la construction de la loi. Est-ce qu'ils ont été homogènes dans leur pensée? Est-ce qu'ils sont avancés d'un même pas? Quelles ont été leurs différenciations, leurs points d'accroche? Quel a été leur combat et leur rapport à cette loi?
Donc déjà pour être homogène, déjà quoi, dans l'esprit, c'est pas être radical. Donc c'est un parti qui a toujours eu en son sein des différentes tendances, des plus pragmatiques, des plus combatifs. C'est un parti qui a toujours vécu en fait de pouvoir trouver en son sein un compromis entre des différentes tendances. Et ça, c'est passé de la même manière pour la 1905, qui est un aboutissement d'un long combat, qui a déjà commencé dans les débuts de la Troisième République et qui aboutit enfin à dans une loi en 1905 qui a été en fait adoptée par un gouvernement qui n'est pas celui qui l'a initié, parce que nous avons aussi en plus entre les deux le gouvernement.
Mais toujours des radicaux.
Tout à fait. Mais la Troisième République, c'est la République des radicaux. Ils se succèdent, mais toujours au sein de la même famille politique. Donc à l'époque, on trouve deux blocs, ou après bloc, c'est peut-être extrême à dire, on trouve deux courants au sein des radicaux, ceux qui veulent aller très loin, donc surtout autour de la personnalité très forte, très présente de Georges Clemenceau, et ceux qui préparent le rapport, donc il y a Ferdinand Buisson et Aristide Briand. Donc les deux s'opposent pas sur le fond, pas sur la laïcité en tant que telle, qui est un esprit qui fait consensus, mais sur l'applicabilité. Donc il y a Clemenceau qui va aller très très loin, qui est très anticlérical, qui se souvient aussi que le clergé est fondamentalement monarchiste à l'époque, qui s'est battu contre l'éducation républicaine. Et d'un autre côté, Briand, Buisson, qui aussi avec le soutien de Jaurès, tiennent compte de l'applicabilité sur le terrain. Si à un moment donné, voilà, la loi, elle doit être appliquée, elle doit aller dans les communes, elle doit aller un petit peu partout dans la République. Et du coup, ils se disent prêts aussi à écouter les catholiques qui peuvent faire des remarques constructives. Chose à laquelle Clemenceau s'oppose fondamentalement. Pour lui, il y a une loi, c'est la laïcité.
Il y a un schisme pour lui.
Il y a un schisme, mais il y a aussi...
Mais il y a un schisme tout le temps?
Non. Au contraire, Clemenceau, au début, quand la loi n'est pas encore passée, quand elle est en discussion, quand le rapport est présenté, il est très opposé. Mais après, il se rend compte, justement, quand il y a ce qu'on appelle les querelles des inventaires qui commencent, quand il y a toutes les hostilités sur le terrain dans les différentes communes, qui font même des morts, qui font de nombreux blessés, ils font envoyer les gendarmes et ils font envoyer l'armée. Ils se rendent compte qu'effectivement, quand on applique une loi qui est censée être une loi de conciliation, une loi républicaine d'apaisement, qui crée quand même des conflits, et se dit, est-ce que ça vaut la peine d'exacerber ce conflit alors qu'on arrive au bout de la loi? Et là, du coup, il change un petit peu de point de vue en se disant, voilà, on arrive au bout des inventaires. Si on voit que ça passe pas par la force, on va pas se frayer le chemin par la violence dans une commune où on se rassemble devant l'église. Mais on arrive à la fin des inventaires, il y a 90% des inventaires qui sont déjà faits. Et ça, c'est en fait un des aspects les plus controversés de la loi. Mmh. Les premiers articles y passent, mais c'est justement de dire ce qui est de la propriété de l'église devient propriété privée. Et à un moment donné, on crée donc les fabriques deviennent des associations cultuelles. Donc, il faut créer cet inventaire. C'est là où tout le conflit, en fait, prend jour, et où Clémenceau, qui est très opposé à la loi parce qu'elle va pas assez loin, il traite de brillant de papaliste, de socialiste papaliste.
Les débats sont vifs entre eux. Hein.
Ils sont vifs, mais après, c'est aussi beaucoup le caractère de Clémenceau, qui n'est pas quelqu'un qui va par deux chemins, c'est quelqu'un qui est aussi le connu pour ses capacités d'orateur, pour insulter les gens, on va dire, en direct. C'est quelqu'un, il se gêne pas du tout d'aller au frontal, même avec ses amis du même parti politique. Donc, du coup, c'est ça, évidemment, qui rend le débat très vif. Après, donc, le gouvernement Combes tombe, mm-hmm. pour suite à l'affaire des fiches.
Combes, qui est lui aussi radical.
Oui, tout à fait. Mais on est toujours entre radicaux. Hein. Mm-hmm. C'est toute dans une très grande partie de la Troisième République, jusqu'à sa fin, en fait. D'accord. Après, on est même si après on est dans une coalition plus large avec les différents cartels, le cartel des gauches, etc. Mais les radicaux entre eux, ils se succèdent dans la même grande famille.
Alors, dans ces radicaux qui portent la loi et qui ont des différenciations, je dirais, au sein du parti radical, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve les mêmes radicaux avec les mêmes différenciations au sein de la libre-pensée. C'est-à-dire qu'ils ont la double appartenance.
Oui.
Hein, ils sont radicaux et libre-penseurs pour un certain nombre d'entre
eux. C'est le même combat.
Combes, Buisson, etc. Et c'est extrêmement intéressant de voir justement que la question à la fois d'une loi, je dirais, qui avance vers le compromis et qui permet, somme toute, la liberté de conscience, parce que le fond... C'est celui-ci, c'est la question de la liberté de conscience.
C'est une loi de liberté, tout
à fait. Et on voit bien qu'il y a cette bataille-là, et cette bataille-là qui, en fait, tombe sur le rocher qui tombe sur le blocage, sur la barrière de la question des inventaires, parce que, effectivement, ces radicaux se radoucissent sur ce terrain-là.
C'est parce que l'inventaire, c'est la concrétisation de la loi. C'est une application très concrète où on demande à un officier d'état civil d'entrer dans l'église, d'ouvrir le tabernacle, et c'est là où tout se déchaîne. Les catholiques, ils voient un sacrilège, c'est un endroit sacré, on y place l'hostie, on n'a pas à y toucher, sauf si on est diacre, sauf si on est prêtre. Donc c'est le symbole de toute la loi. Évidemment, les oppositions portent contre la loi, sur l'ensemble de la loi, mais c'est un petit peu l'émanation la plus concrète. C'est là où ça se passe sur le terrain. Il y a le prêtre qui est devant son tabernacle, il y a l'officier d'état civil qui arrive, et ça se passe souvent dans la violence.
D'accord, très bien. Alors, c'est extrêmement intéressant, mais pourtant, dans la pensée radicale, et sur ces questions de laïcité, il y a quand même une clarté sur, et quelque chose qui va se clarifier au fil du temps, sur le fait que les radicaux sont laïcs,
tout à fait,
et défendent la laïcité. Et je voudrais que nous apprécions cela à l'aune et à la lumière de ce qu'a été Jean Zay. Mmh. Jean Zay radical, Jean Zay libre-penseur, Jean Zay engagé dans ce...
Oui.
Résistant, oui, mais Jean Zay engagé d'abord, avant justement la guerre, dans ce combat sisyphien de la construction de la République. Alors Franck, Jean Zay, le radical, quelle fut son œuvre, son combat? Quelle est sa portée aujourd'hui pour nous?
La grande œuvre de Jean Zay, c'est sans doute tout au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la culture, mais aussi de la construction d'un modèle profondément républicain. C'est un grand, grand républicain qui, après, on connaît tout son histoire, il a fini assassiné, il n'a pas pu aboutir son œuvre, mais c'est quelqu'un qui porte les grandes valeurs, les vraies valeurs du radicalisme, dans un grand projet qui continue toujours à planifier, même emprisonné, il continuait à réfléchir à des réformes de l'État, à l'éducation nationale, l'éducation publique, la création d'un citoyen qui réfléchit, un citoyen libre. Donc la grande œuvre, c'est dans son héritage. Moi, je le vois surtout dans les aspects de l'éducation nationale. Après, évidemment, il a créé aussi le Festival de Cannes, qu'on connaît très bien. Il a fait d'énormes contributions et sa place au Panthéon, elle est plus que méritée, aux côtés des autres résistants, comme Jean Moulin, qui lui aussi était un grand radical.
Alors, sur son œuvre scolaire, je dirais, sur ses fameuses circulaires,
oui.
Ces circulaires-là, je l'ai demandé, est-ce qu'elles sont encore actuelles, elles sont encore d'une certaine actualité?
C'est difficile à dire dans le sens que, déjà, les circulaires, elles sont deux. La première, elle est contre l'agitation politique seule. Mmh.
Et au sein de l'école.
Au sein de l'école, oui, tout à fait. Après, elle suit celle qui implique aussi la SED. On dit que ce n'est pas juste une sorte d'agitation politique, mais aussi de prosélytisme religieux. Elle a été créée dans un contexte à l'aune du fascisme, où il y avait les nazis en Allemagne, en France, où il y avait tout le fascisme qui faisait émergence en Europe. Et c'était pour préserver justement l'école publique de ces tendances-là, mais aussi pour préserver en général toute une génération de ces influences néfastes. Donc on a l'esprit de l'époque qui est très dur, et il y a le fond, il y a un principe qui est plus large, qui dit, voilà, est-ce que l'école ne doit pas être plutôt un havre de paix où toute agitation politique, toute agitation religieuse est à proscrire? Il y a une difficulté dans l'application, parce que si on rapporte ça au jour d'aujourd'hui, le pins avec le symbole de la paix, un t-shirt de Che Guevara, tout ça tomberait sous la circulaire, dans une application stricte. Donc il faut voir aussi quelle est la marge d'application, quelle est la liberté d'interprétation. Et elle était très dure parce que l'époque, elle était très dure. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus complexe parce que qu'est-ce qui est un symbole politique, qu'est-ce qui est juste un symbole de mode, qu'est-ce qui est un symbole religieux, qu'est-ce qui est juste...
Oui, ce sera à l'école de définir qu'est-ce qui est prosélytisme ou qu'est-ce qui ne l'est pas.
Voilà, tout à fait. Donc ça sera plutôt...
Mais la philosophie comme l'école havre de paix reste de Jean Zay jusqu'à nos jours et reste quand même cette vraie problématique pour les pouvoirs publics.
Voilà, tout à fait. Mais là, on parle d'une circulaire. Donc la philosophie, à mon avis, on la verrait plus dans une loi. Une circulaire, c'est une demande d'application, c'est une lettre qu'on envoie au préfet. Donc là, on est dans un autre contexte. Donc pour maintenir, je pense, la philosophie de Zay, qui est bonne, qui est juste dire on éduque un citoyen, mais on ne détourne pas un citoyen, on ne l'influence pas. Et l'école publique doit être à l'abri de tout ça. Cette philosophie, cet esprit, il est tout à fait valable et je le verrais bien dans une loi. La circulaire en tant que telle, je pense que déjà à l'époque, elle était difficilement applicable. Aujourd'hui, ça serait impossible. Il faudrait faire beaucoup de cas par cas. Il y aura beaucoup de controverses. Il y aura beaucoup de cas extrêmes. Ça exaspère un petit peu comme tout ce qu'on voit autour de la laïcité aujourd'hui. À chaque fois qu'une nouvelle constellation se propose, on voit déjà les parents d'élèves dans la rue parce que mon gamin, il avait un t-shirt de Che Guevara, parce que mon gamin est venu avec un pins pour l'environnement, etc.
Je saisis ton propos. Même si... moi, personnellement, j'ai un point de vue un petit peu différent parce que je pense que, justement, elle permettrait de clarifier les choses. Mais je pense que le débat, effectivement, doit se poursuivre autour de ça. Alors, sur d'autres questions, et là aussi, on revient sur ces grandes... la place du radicalisme en France, sur ces grandes figures, mais surtout sur la place des radicaux, parce que les radicaux, c'est... ça, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est très Troisième République, très... Quatrième République sous une certaine forme encore, parce que c'est un parti qui joue aussi sur les alliances. Enfin, une organisation, on va dire, qui joue sur des alliances.
Qui joue d'un certain pragmatisme.
Oui,
qui dit je préfère être au pouvoir et pouvoir participer que de dire je me cache derrière un combat impossible.
D'accord. Mais la Cinquième République, quelque part, chamboule tout ça.
La Cinquième République, c'est la mort du radicalisme par son système électoral, par sa constitution, parce que justement, c'est un parti qui n'arrive pas à se fondre dans le suffrage direct du président. Ça ne va pas du tout dans l'esprit radical, qui est plutôt un esprit d'un élu local, de quelqu'un qui est très présent, très ancré dans le terrain, qui est dans le législatif.
Bien sûr.
Le radical, c'est plus un législateur qu'un exécutif.
Alors, c'est justement ça. J'arrivais à cette Cinquième République et la loi Debré, parce que je pense que c'est ça dont il s'agit. Donc, en quelques mots, la loi Debré, quelle est l'essence de ce combat-là pour les radicaux?
Les radicaux, comme d'ailleurs tout ce qui se passe au début de la Ve République, sont opposés au retour de De Gaulle, ils sont opposés à la constitution de la Ve République, et ils sont en bloc et opposés à la loi Debré. Ils font partie de... de ceux qui ont participé au serment de Vincennes. Et après, des radicaux, il faut dire qu'au début de la Ve République, parlementairement, il n'en reste plus beaucoup. Donc du coup, c'est l'opposition parlementaire, elle est un petit peu moins visible que la réelle opposition de gauche. Mais ils sont très présents dans le serment de Vincennes. Ils soutiennent aussi, d'une certaine manière, la CNAL, même si la CNAL a des origines syndicalistes. Et ils mènent leur combat jusqu'où ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont à disposition. Maintenant, les radicaux sous la Ve République sont loin d'avoir la portée et le poids qu'ils avaient sous la Quatrième. Ils se font briser par cette République, en fait. Après, ça va jusqu'à mener à la scission, parce qu'il y a toujours eu des différents courants au sein des radicaux, plus enclés à droite, plus enclés à gauche. On arrivait à trouver toujours un fond commun, on arrivait toujours à garder la maison ensemble, parce qu'on était suffisamment fort, parce qu'il y avait, on va dire, une manière très simple, de la place pour tout le monde.
La laïcité, est-ce qu'on peut dire que c'est le pilier commun des...
Oui, tout à fait. Sans le moindre doute, ça, c'est un des grands piliers des deux radicaux, des deux tendances radicales. Oui, tout à fait.
Et donc, par exemple, sur cette question de la loi Debré, on peut dire là aussi que c'est le dernier combat commun des radicaux sur le terrain de la laïcité, j'entends.
Sur le terrain de la laïcité, le combat il continue pour les deux blocs radicaux qui ont maintenant leur scission. Consommer peut-être moins ostensible, moins uni, dans le sens que les deux parties coexistent, mais dans d'autres logiques de coalition, avec d'autres manières de faire valoir ses propres valeurs, ses propres pensées. Mais la laïcité reste très présente au sein de tous les radicaux, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Voilà. Très bien, très bien. Bah, écoute, Franck, je te remercie.
Merci à toi.
Bah, je t'en prie. C'était Franck Samet, président de la Société d'histoire du radicalisme, et David Gozlan, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre-pensée. Je vous retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un bon mois de juin et nous allons laisser la place au corbeau. Au revoir.
Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.